Je prêche ce matin sur la suite de la semaine dernière de la Pentecôte, sur la Pentecôte, sur le paraclet. Le paraclet, c'est le terme utilisé par le Nouveau Testament pour parler du Saint-Esprit qui nous est envoyé, qui a été envoyé pour remplacer Jésus sur la terre. Donc on a un remplaçant qui est bien plus efficace, comme le dit Jésus, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que je vous enverrai le Saint-Esprit, vous enverrai le paraclet. Il y a une différence entre la Pentecôte primitive, la première Pentecôte, hein, qui s'est produite quand on regarde les Actes des Apôtres, acte 2, où on voit que le Saint-Esprit descend sur combien, j'aime bien l'interaction, combien de disciples ont été réunis? Pardon?
120.
120. Merci, c'est bien. C'est 12 fois 12 fois 10, voilà. C'est pas du tout inutile. Peut-être qu'ils n'étaient pas 120 exactement. Vous voyez, la Bible est symbolique. Hein. Il y a beaucoup de symboles. Hein. Mais le plus important de comprendre, c'est que à partir de la Pentecôte, l'Évangile est adressé à toutes les nations, donc pas uniquement aux 12 tribus d'Israël. C'est ça que surtout que ça veut dire. Vous voyez. Il y a toujours un message dans la parole de Dieu. Le Seigneur permet que des chiffres, eh bien, comme 40, comme 12, comme 7, comme 3, etc., sont des chiffres, mais qu'on retrouve avec une même explication, une même interprétation. Et c'est pour ça aussi, on peut les, parfois, il y a des chiffres qui peuvent avoir deux interprétations. Mais en tout cas, c'est toujours la même. C'est une cohérence. La Bible a une cohérence absolument incroyable, et bien sûr parce que c'est les inspirés, elle est inspirée de Dieu. Donc 120 ont reçu le Saint-Esprit à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui descend, c'était pas du feu, c'était comme du feu, c'est-à-dire c'est comme une bougie hein, quand elle est allumée, cette forme-là, hein, c'est comme du feu. Mais c'était pas du feu, hein. C'est un peu comme quand le Saint-Esprit agit avec du feu. C'est pas forcément avec du feu, mais il est même plus puissant que du feu. Vous voyez, la puissance de Dieu. Donc l'Église primitive a reçu la Pentecôte et ça nous est relaté dans la parole de Dieu et particulièrement dans Actes des Apôtres, mais aussi dans tous les Actes des Apôtres, dans toutes les épîtres, hein, puisque c'est l'Église primitive. Or, il y a une différence, et j'ai commencé à vous parler de la différence entre cette Pentecôte et la Pentecôte actuelle. Parce que la Pentecôte actuelle, dans laquelle nous nous croyons en tant que doctrine d'Église, hein, toutes les Églises ne sont pas pentecôtistes, mais nous on est pentecôtistes, et on croit que le Saint-Esprit agit encore de la même manière, avec la puissance, avec les dons, avec etc. Bon. Et cette doctrine est ressurgie au XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle. Vous savez, Dieu a ses plans. Hein. De toute façon, là maintenant, on va vers le retour du Seigneur. Là aussi, c'est un événement historique qu'on va vivre. Hein. Il faut l'attendre vraiment fermement. D'ailleurs, les premiers chrétiens, donc l'Église primitive, il y a 2000 ans, l'attendaient déjà dans leur temps. L'attente du retour du Seigneur est aussi un facteur de vigilance. Même si le Seigneur n'est pas revenu le premier siècle, eh bien les chrétiens étaient vigilants parce que c'était leur attente, surtout quand ils étaient envoyés se faire manger par les lions dans les cirques, etc. Voilà, ils attendaient le retour du Seigneur. Et donc, à combien plus forte raison aujourd'hui devons-nous attendre le retour du Seigneur ? Parce que déjà au premier siècle, c'était la fin des temps, puisque Jésus a amené la fin. Mais aujourd'hui, on est la fin de la fin, dans la période de l'Église de la fin. Donc cette Pentecôte-là, qui a été expérimentée en 1906 à Azusa Street, en 1904 au Pays de Galles, un peu partout à ce moment-là, il y a eu sur la Terre un mouvement de redécouverte de la Pentecôte. Mais elle est différente. Elle est différente et on va le voir ensemble. Je voudrais juste vous parler de notre famille d'église, enfin de notre doctrine de l'église, hein, qui est la doctrine pentecôtiste. Albert Simpson, qui est né en 1840, donc au milieu du 19e siècle, il était influencé par... alors vous voyez, ce que j'aime bien, c'est cette frise-là, parce que c'est la nuée de témoins qui nous a précédés et qui nous a légué un historique. Donc Albert Simpson est né dans la partie orange, au milieu à peu près. Donc non, attendez, je suis perdu. Ah oui, ils mettent 1900, c'est pas les siècles. Non, c'est bien la partie orange, parce que là c'est le 20e siècle, et là c'est le 19e siècle, 1800. Donc 1840, donc au milieu de cette partie orange, il est né là, et dans cette partie-là, il y avait un mouvement de sainteté, ce qu'on appelle « holiness » en anglais, un mouvement de sainteté qui prévalait à ce moment-là. Quand on regarde l'histoire, on voit comment Dieu agit de siècle en siècle, avec une progression vers la fin des temps. Si on regarde le XVIe siècle, donc 1500, c'est la réforme de l'Église, qui est l'Église catholique. Luther et Calvin n'ont jamais voulu quitter l'Église catholique, ils ont voulu la réformer. C'est pour ça qu'ils appellent ça réformer l'Église. Simplement, ils ont été mis dehors, mais eux n'ont pas cherché à se séparer, parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Voilà. Mais l'Église à l'époque est arrivée à une telle corruption. Quelle corruption ? Je ne peux pas vous imaginer la corruption qu'il y avait au XVIe siècle parmi l'Église catholique, et en particulier celle qui a vraiment écœuré Luther, c'est les indulgences à Rome pour construire la basilique du Vatican, où les gens les plus pauvres devaient donner leur dernière aumône pour construire cette basilique. Donc ça... ça l'a écœuré dans le sens où on justifiait l'argent qu'on donnait pour aller au paradis, pour aller au ciel. Voilà. Donc c'était une exploitation, les indulgences, de l'argent des gens avec des promesses qui ne sont pas du tout bibliques, puisqu'on est sauvé par grâce, on n'est pas sauvé par l'argent. Et Luther, à ce moment-là, qui est en haut de cette frange jaune, eh bien, lui a réagi. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que cette réforme puisse avoir lieu. Parce que 100 ans avant, il y avait Jean Hus, hein, qui a terminé sur un bûcher. Normalement, c'était prévu pour Luther aussi, terminer sur un bûcher. Mais bon, ceux qui ont vu le film Luther, qui est très bien fait, il explique parfaitement comment il en a réchappé. Dieu a permis que Luther puisse rester en vie. Après lui, il y a Calvin, qui est un Français, qui s'est converti. Après Calvin, il y a Spifam, qui habitait ici au Bergenville, qui était un évêque, qui était le troisième personnage de Genève à un moment donné. Voilà, tous ces gens-là, ils ont réformé l'Église. Ensuite, après, il y a la partie violette, 16e siècle. Là, ce sont les piétistes qui se sont levés. Parce que 100 ans après la réforme, les piétistes, donc Spener, il vient d'Obernai, d'Alsace, et il est allé en Allemagne, il était écœuré de voir l'Église réformée ne plus lire la Bible. Les gens ne lisaient plus la Bible. Vous voyez, ils avaient des Bibles, ils ne lisaient plus. Donc, il était écœuré qu'en bout de 100 ans, et l'Église catholique, c'est 2000 ans. Au bout de 100 ans, l'Église protestante déjà ne lisait plus la Bible. Les gens ne lisaient plus. Donc, il a poussé à des petits groupes, on appelle des petits groupes de maison, pour lire la Bible, pour étudier la Bible, etc. Voilà. Et ce qu'on appelle, on les a appelés les piétistes, ceux qui sont pieux. Et en Allemagne, Dieu a permis qu'il puisse être hébergé par un comte, un prince, Zinzendorf, près de Berlin, là-haut. Et il a été protégé, parce que là aussi, les protestants ont voulu l'éradiquer. Vous voyez, c'est toujours de l'intérieur que c'est le plus grave au niveau du christianisme. Donc les protestants ont voulu l'éradiquer, parce qu'ils gênaient, bien sûr, en disant « il faut lire la Bible », alors que Luther, c'est ce qu'il disait, vous voyez. Donc Spener et les Moraves, ça s'appelle les Moraves, étaient tellement attachés au Seigneur que c'est à partir des Moraves, des frères Moraves, que l'évangélisation du monde entier s'est faite. Il y a des bateaux entiers qui sont partis, des Moraves, pour évangéliser. Parce que les protestants étaient renfermés sur eux. Vous voyez, quand on est renfermé sur eux, on n'évangélise plus. Vous voyez, on est sur la doctrine, on est sur la religion, tout ça. Donc les frères Moraves ont envoyé à l'extérieur. Et il se trouve qu'un nommé Wesley, donc au XVIIIe siècle, non, je suis perdu avec les siècles, enfin c'est 1700 et quelques, donc 18e, oui. Il est revenu avec, sur un bateau où il y avait des Moraves. Et là, lui qui était chrétien, qui était prêtre anglican, qui était pasteur, il a vu ses frères Moraves prier pour lui. Pratiquement tout le bateau a failli mourir tellement les tempêtes, vous savez, quand les tempêtes se déchaînent sur l'Atlantique, c'est assez incroyable. Et donc, il priait, il chantait des louanges et tout ça. Lui, il n'en revenait pas. Il n'a jamais vu ça, quoi. Et donc, il a été touché et il s'est converti, Wesley. Et il a amené un réveil qui a duré 100 ans en Angleterre. Et lui est allé plus loin que la piété. Il a enseigner la sanctification, le principe de la sanctification. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et ensuite, comme l'Angleterre à l'époque était aussi aux États-Unis, tout l'est des États-Unis, Virginie, etc., était anglais, eh bien, il est aussi en Angleterre. Et aux États-Unis, ça donnait un autre mouvement, c'est le mouvement de sainteté, holiness. Et tous les mouvements évangéliques, aujourd'hui, nous, on est héritiers de ces mouvements des puritains, ce qu'on appelait les puritains, etc., avec le Mayflower et tout ça. Donc ça, c'est le 19e. Et la Pentecôte est venue fin du 19e, début du 20e, 1904, 1906, aussi bien à Los Angeles que dans le pays de Galles. Et tous les instituts publics, ou les, par exemple l'Institut public de Nogent, de Vaud, etc., sont issus de ce réveil du Pays de Galles. Les réveils sont des lieux où il y a des pasteurs qui se lèvent, il y a des ministères qui se mettent en place, il y a de l'enseignement qui est donné, Rubens Sayens, enfin tous les chants qu'on a, c'est le réveil du Pays de Galles. Tout ça pour vous dire que il y a une doctrine qui a voulu synthétiser l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont les quatre ministères principaux de Jésus-Christ. Et c'est le fameux petit logo qui est à gauche qui le représente. Jésus sauve, Jésus sanctifie. Alors la sanctification, c'est représenté par la cruche de l'onction, où on faisait l'onction des rois dans l'Ancien Testament. Elle est remplie d'onction du Saint-Esprit pour sanctifier, pour consacrer les rois. Et nous sommes tous des rois et des reines, hein, dans le royaume de Dieu. Donc la consécration, la sanctification, Jésus sauve, Jésus sanctifie, Jésus guérit, c'est la coupe. Par le sang de Jésus, nous avons la guérison. Et ensuite, Jésus règne, c'est la couronne, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et qui revient aussi. Voilà. Donc ça, Simpson, en 1840, donc déjà, avait développé cette notion du quadruple évangile. Nous-mêmes, nous étions dans l'évangile, dans le Foursquare mouvement, le mouvement Foursquare pendant 4 ans, et on avait ces affiches qu'on avait là, mais ils sont tombés parce qu'ils étaient collés là. Donc l'évangile, les quatre évangiles des mystères de Jésus. Je cite Tozer parce que Tozer, en fait, il a travaillé avec Simpson un peu plus tard. Il est né fin 19e et il est mort en 1963. Donc c'est un peu contemporain, moi, 63, j'avais 15 ans. Et donc il est mort à ce moment-là. Et ils ont travaillé ensemble, Simpson et Tozer. Et pour ceux qui ne connaissent pas les livres de Tozer, c'est des livres de prière. Il a écrit tout plein de livres de prière, des livres de piété, de prière, des hymnes, des choses comme ça. Vraiment, c'est un homme d'une intégrité absolument remarquable. Quand il prenait des grandes conventions dans le monde entier, enfin, aux États-Unis, il prenait pas la voiture, il prenait le train avec ses enfants, avec ses valises et tout. Voilà. Il voulait dépendre du Seigneur et il était d'une probité remarquable. Et il a écrit jusqu'à la fin de sa vie des livres de prière, des livres de piété, absolument extraordinaires. Et William Seymour, donc vous l'avez aussi dans la partie bleue, tout à fait le premier, là, William Seymour, lui, il a été à l'origine à Los Angeles de mouvement des assemblées de Dieu, donc de la Pentecôte qui est descendue à ce moment-là aux États-Unis. Il a aussi développé l'évangile quadruple de Jésus. Il y a juste une différence, c'est que Jésus sauve, Jésus baptise de l'Esprit. Donc le baptême de l'Esprit, il le représente par la colombe, le baptême de l'Esprit. À la place de Jésus sanctifie. Je vous donnerai un petit mot tout à l'heure, parce que les deux sont vrais, sauf qu'ils ne conduisent pas à la même attitude de notre part. De toute façon, si on voulait résumer le ministère de Jésus, il y en a plus que quatre. Hein. Bon, c'est là 6, 8, 10. Bon. Jésus guérit, Jésus revient. Donc les autres sont exactement la même définition. La doctrine du quadruple évangile a été développée par l'Alliance chrétienne missionnaire, ACM, qui est représentée par 20 églises en France. Avec Michel, on l'a découvert là-bas parce qu'ils ont une université. Une très grande université, et moi je suis tombé dessus, j'ai dit à Michel, tiens, j'ai jamais vu d'université aux États-Unis, on y va, parce qu'on était à Bethel Church, c'est juste en face, et on a rencontré miraculeusement des gens qui ont dit, ah mais on vient en France, on peut évangéliser avec vous, avec des jeunes, ils ont des basketteurs au niveau professionnel, etc. Et là on a découvert cette alliance chrétienne missionnaire, qui sont tournés vers les missions, et qui ont le quadruple évangile avec la sanctification. Et les assemblées de Dieu et Foursquare, qui sont dans les quatre évangiles, sauve, baptise, guérit, revient. Je vous dis ça parce que il y a quelque chose que le Seigneur fait en ce moment. Il nous fait redécouvrir un petit peu cette dimension de la Pentecôte au travers de Jeffries. Jeffries, c'est quelqu'un qui a vécu pratiquement à la date près comme Tozer, 1897-1962. Mais il était gallois et il a connu le réveil du Pays de Galles. Le réveil du Pays de Galles, c'est un réveil absolument incroyable. Et donc il a développé aussi la notion du quadruple évangile et de la sanctification. Et c'est le mouvement Elim. Elim, il est connu surtout en Angleterre, mais aussi en Suisse. Et en Suisse, il a donné lieu aux églises de réveil. Ils sont appelés églises de réveil avec Hutzinger, etc., parce que Jeffries est venu en Suisse. Tout ça pour vous dire que nous sommes dans cette pensée chrétienne avec la dimension du Saint-Esprit, la dimension du Paraclet. Le fait que quand on dit Jésus baptise de l'Esprit, on met l'accent sur les dons. Voilà. Parce qu'il donne des dons spirituels par le baptême du Saint-Esprit. Alors que la sanctification, il met l'accent sur les fruits. Et vous savez que les fruits et les dons sont importants tous les deux. Si vous avez des dons sans les fruits, bien vous êtes comme une timbale qui résonne. Si vous avez des fruits sans les dons, il y a quelque chose qui manque. Ça, c'est plutôt les évangéliques classiques qui ont peur des dons par excès, parce que les pentecôtistes ont fait trop d'excès. Donc du coup, on n'a pas donné un témoignage, enfin les pentecôtistes, on va donner un témoignage suffisant pour donner envie à ceux qui ne connaissent pas. Donc il y a aussi une responsabilité de ce point de vue-là. Et nous, notre position, c'est cet équilibre où nous croyons aux dons et aux fruits. Donc en fait, on croit à la cruche et puis à ce symbole hein, qui est le symbole du don du Saint-Esprit, juste pour vous donner un exemple. Et on se retrouve avec l'église d'Ifto, qui est aussi dans ce domaine-là. D'ailleurs, Gilles était dans les églises de réveil, mais ils l'ont mis dehors, bon, pour des raisons qui ne sont, sont pas très justes. Mais, et il est allé dans l'église des Limes, qui est la même, sauf que c'est le nom qui change, mais la doctrine, c'est la même. Nous croyons au don et aux fruits de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, enfin, tel que les pentecôtistes, donc de la Pentecôte aujourd'hui, l'enseignent, est un peu un piège, si on reste sur le baptême du Saint-Esprit. C'est un piège qui est contesté par, justement, les églises évangéliques classiques, parce qu'ils disent, mais pourquoi il y a deux baptêmes? Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a deux grâces. Il y a la grâce d'être sauvé et la grâce d'avoir des dons. Mais c'est pas faux. Et je pense que le fait de réunir les deux, hein, de réunir les dons et les fruits, de réunir le symbole de la colombe et le symbole de l'onction, eh bien, ça résout le problème parce que, en fait, Jésus, il sanctifie, il nous sanctifie. Et Jésus aussi, il nous baptise. Sauf que si on met le baptême au départ de la conversion, ben, tout le problème est résolu. Et c'est vrai que la Bible dit qu'on ne peut pas se convertir si on ne reçoit pas de révélation. Il y en a ici qui ont reçu des révélations du Seigneur Jésus. Levez la main. Vous avez reçu que Jésus est votre sauveur. Oui ? C'est ce que vous avez témoigné à votre baptême. Si le baptême était authentique, tout le problème est là. Il y a des baptêmes qui se font par habitude, baptême des enfants ou baptême même, voilà, il y en a qui baptisent à l'appel. Hein, vous voyez, par exemple, Clovis, quand il s'est converti, c'est l'histoire de France, hein, 496, quand il s'est converti, parce qu'il voulait gagner une guerre, et il a dit, ah, il s'est adressé au dieu de sa femme, de Clotilde, en disant, si tu me donnes la victoire, je deviens chrétien. Il a gagné la victoire, il semblerait qu'il a vu une croix, la gagné la victoire. Et vous savez combien se sont fait baptiser? Hello! Combien se sont fait baptiser? À Noyon, dans le nord de la France. Vous ne connaissez pas votre histoire, là? Pardon? 3000. Il y a 3000 chefs, hein, soldats. Est-ce que vous croyez que ces 3000 étaient convertis? Bien sûr que non. Mais on suivait le chef. Si le chef se baptise, je me baptise. Et c'est ça le problème. Attention, je ne retombe pas sur l'Église catholique parce que les évangéliques sont pareils. C'est humain. C'est que quand on commence à baptiser, moi j'ai vu aux États-Unis, il y a des baptêmes dans les églises évangéliques, on baptise par dizaines, par centaines le dimanche, etc., en pleine vitesse. Bon, si on baptise sans vérifier l'authenticité de la foi de la personne, de la relation qu'il a avec le Seigneur, ben, on produit après des contre-témoignages, forcément. On produit des gens religieux. Ouais. Ce qu'il faut, c'est notre relation. Notre baptême doit signifier ce qui s'est passé spirituellement dans nos cœurs. Il y en a qui sont d'accord avec ça? Ben, j'espère. Hein. Parce que sinon, je me sens seul, là. Nous, quand on baptise, il est là derrière le baptême, eh bien, on prépare le baptême et on demande un témoignage, on s'assure que le baptisé va témoigner le jour de son baptême d'une foi authentique dans le Seigneur Jésus. Hein? T'es d'accord, Franz? C'est ça. C'est ça. Et si on le perd, alors mon fils a étudié à Grenoble, et puis on est allé le voir, et puis à un moment donné, on était en tramway, et puis d'un seul coup, le tramway, en pleine rue, hop, il fait un gros détour comme ça, mais de 50 mètres comme ça. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben, ils ont fait des fouilles, et j'ai découvert un baptistère devant la cathédrale. Il y a une grande cathédrale, voilà. Et donc, ils devaient garder le baptistère, il était enfoui. Il était sous la terre pendant qu'ils faisaient les fouilles. Voilà. Et on s'est renseigné, on est allé voir, le visiter. Il est visitable maintenant. Parce que jusqu'au 6e siècle, les chrétiens, jusqu'au 6e siècle, dans l'Église catholique, les gens se faisaient baptiser à l'extérieur. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le sanctuaire, dans l'Église. Il fallait d'abord être baptisé. Vous voyez, physiquement, c'est un peu comme si le baptistère ici, je le mettais sur la terrasse là. Et tant que les gens ne sont pas baptisés, ils n'ont pas le droit d'entrer. C'était comme ça. Vous voyez. Ils s'assuraient que les baptêmes soient authentiques. Et c'était des baptistères, c'était énorme, puisqu'il fallait faire 50 mètres autour. Les baptistères, on plongeait les gens. On ne les baptisait pas comme ça, avec de l'eau sur la tête. On plongeait les gens. Mais quand, à un moment donné, il y a eu le croisement entre la politique et la religion, ce qu'on appelle vulgairement l'épée et le goupillon, le politique et les clercs et la religion, quand ils ont fait une association, et ça s'est passé à Reims, quand Clovis a pris le baptême, il fallait que l'Église catholique oigne le roi, à condition que le roi protège l'Église. Vous voyez, donc il y avait une protection de l'armée, donc il y avait une assurance que l'Église allait être protégée par le roi, qui lui était validé, était couronné par les prêtres, par les évêques. Et du coup, vous voyez, cette association entre le politique et la religion, qui n'a jamais été enseignée par Jésus. Jésus ne s'est pas fait adouber par César ou Pilate. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Vous voyez. Donc, comme quoi, on dévie très rapidement. Mais une fois que les princes, les gouvernants se convertissent, eh bien tout le peuple, il faut qu'il fasse pareil, parce que pour avoir l'unité d'un royaume, il faut un roi, une loi et une religion. Donc c'est pour ça qu'en France, on a mis les protestants dehors, parce que c'était la religion catholique qui devait unir. C'est le principe d'unité. Vous voyez, ça part toujours d'un bon sentiment. On dit d'ailleurs, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. C'est jamais les mauvaises, c'est les bonnes. Sauf que c'est pas biblique. Et tout. Elles sont bonnes, mais elles ne sont pas bibliques. La Bible ne parle pas du tout d'alliance entre le politique et le religieux. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'aux États-Unis, ils ne sont pas d'accord. Hein. Ils sont complètement divisés sur cette question-là, et ça divise la société. Non, non, mes amis, le politique n'a rien à voir avec le religieux. Nous, on doit prier. Comme Michel l'a rappelé ce matin, une maman de prière, une papa de prière. D'ailleurs, dans Timothée, il est dit que les hommes élèvent des mains pures. Et c'est les hommes qui sont adressés, c'est les hommes qui doivent prier, intercéder avant les femmes. Or, souvent, dans l'Église, on voit plutôt les femmes qui prient et pas les hommes. Mais dans cette Église, c'est différent. Et je suis très content de voir des hommes qui sont là, qui prient, qui intercèdent et qui sont dans la maison de prière. Donc on est dans la bonne voie. Maintenant, il faut la garder, cette bonne voie, et continuer à aller dans ce sens-là. Donc je reviens rapidement sur l'histoire de la Pentecôte. Luther, c'était le salut par la foi. Par contre, il n'a pas trop changé la liturgie catholique. L'Eucharistie s'est transformé non pas en transsubstantation, mais en quelque chose de substantation aussi. Ça. Ensuite, Calvin et Zwingli. Zwingli, il était évangélique à l'époque. Il est mort à Zurich, d'ailleurs. C'était la guérison de l'idolâtrie de la scène, justement. La scène est devenue symbolique. Qu'on va partager tout à l'heure, c'est le symbole. Zwingli a dit, non, Jésus n'est pas dans le pain, on ne va pas manger Jésus où il y a du sang qui va couler quand on va le manger, etc. Comme c'était le cas de l'Eucharistie à l'époque. Hein. Aujourd'hui, bon, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, après, il y a eu les Moraves, donc la piété, et la piété est importante. Donc, il faut garder le salut par la foi, il faut garder le principe de séparer des idoles, et en particulier de l'idole, de croire que, voilà, si on touche à ça, on m'a raconté que dans la religion catholique, il y en a qui prenaient 3 ou 4 fois l'Eucharistie, enfin, les messes, ils faisaient plusieurs messes, pour être saints, quoi, hein. Et comme ils prenaient une messe, je sais pas, le matin, l'après-midi, ils péchaient exprès pour pouvoir confesser ses péchés. Enfin, vous voyez, on arrive à des aberrations, quoi, hein, vous voyez. Quand c'est idolâtre, on n'y a plus de sens, quoi. Donc il pêchait exprès pour pouvoir se confesser au prêtre et ensuite après prendre à nouveau l'Eucharistie, etc. Enfin, vous voyez, quand c'est des idoles, on marche sur la tête, n'a plus rien à voir avec la Bible. Donc l'idolâtrie de la scène est devenue le symbolique et la mise en règle des croyants avec Dieu. Les moraves, c'est la piété, c'est la prière, c'est la lecture de la parole. Ensuite, Wesley, c'est la perfection chrétienne et le quadrilatère de la foi. La foi, qui est l'essentiel de la foi, c'est les Écritures. C'est éclairé par la tradition, vivifié par l'expérience et confirmé par la raison. Il disait que si Dieu nous a donné une raison, ce n'est pas pour la mettre dans la poche, c'est pour l'utiliser, en particulier pour annoncer l'Évangile. Simpson, dont je vous ai parlé, 19e, c'est la sanctification. Sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et Tozer et Jeffrey, c'est le pentecôtisme américain et gallois qui a éclaté en même temps pour relever les ministères, en particulier prophétiques. Et c'est pour ça aussi qu'on croit au ministère prophétique et le don des langues, le don d'évangélisation, etc. L'insistance du baptême du Saint-Esprit hein, dans la Pentecôte actuelle, effectivement, peut cliver si il y a la notion de double grâce. En fait, il n'y a qu'une seule grâce, c'est le fait d'être sauvé en Jésus-Christ et de recevoir le paraclet. Il n'y en a qu'une. Mais s'il y en a qui sont sur cette pente-là, moi je me suis converti et j'étais dans une église, une petite église de pentecôtistes qui est extrêmement pieux, mais ils faisaient des réunions d'attente du Saint-Esprit, un peu comme dans la chambre haute, ils expliquaient, voilà, il faut attendre le Saint-Esprit pour évangéliser après. Ben, on faisait des attentes sans arrêt, hein. On attendait, il ne se passait rien, etc. Ce qui fait que le fait d'attendre, vous voyez, c'est une réplication. Quand on veut être biblique, parfois on est simplement bibliolâtre, hein. Bon, mais je ne leur jette pas la pierre, c'est des gens extrêmement sincères, mais c'est une erreur. Parce qu'en fait, Jésus nous a envoyés pourquoi ? Pour évangéliser. Il a donné une mission. Vous ne pouvez pas faire une mission si vous attendez le Saint-Esprit, si vous ne faites rien, si vous restez sur votre chaise. La mission, c'est pour aller. Donc il nous a donné le Saint-Esprit pour y aller. Comme il l'a fait la première Pentecôte, mais cet esprit, il est répandu sur toute chair. Et donc aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Il faut simplement faire l'expérience de sa présence et d'aller prêcher l'Évangile. Donc l'expression baptême du Saint-Esprit peut être justement polémique et clivant par rapport à des évangéliques qui sont nos frères et qui chercheraient plutôt justement faire l'expérience des dons spirituels. La sanctification, c'est toute une doctrine, bien sûr. Il y en a qui croient que on est sanctifié pour toujours et sans rien faire. C'est un peu la doctrine calviniste de Calvin, bon, la prédestination, on est prédestiné à être sauvé. Et là aussi, vous voyez, si on est là-dessus, voilà, on va dire, Charles, il est prédestiné à être sauvé, et puis Sylviane, prédestiné à être perdu. Voilà, donc, vous voyez, c'est un peu cette idée de projeter sur les gens, qui sont sauvés, qui sont perdus. Voilà. Or, c'est pas ça. La sanctification, elle est progressive. C'est-à-dire que chacun doit faire des efforts. J'ai l'habitude de citer 1 Timothée 2, 12 et 13, qui, moi, m'a marqué dès ma conversion, qui est dit « Travaillez à votre salut ». Attendez, travaillez à votre salut, c'est l'inverse de la grâce. La grâce, c'est ne rien faire et recevoir. Donc pourquoi il dit « Travailler » Alors, est-ce que Dieu s'est trompé en écrivant ce verset? Oui, moi je cherche des cohérences. Moi je crois en un Dieu cohérent. Parce qu'au verset 13, il dit « Car c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire ». Ça veut dire qu'il nous demande de nous mettre en route, de faire un effort. Ça ne se passera pas quand je reste sur mon canapé à regarder la télé. Faire un effort pour aller vers les perdus, etc. Et pendant que je fais cet effort, Dieu me remplit et me donne les dons pour parler, agir, prophétiser, amener. Allô ? Je suis suivi, là ? Vous êtes d'accord ? Regardez la Bible. 1 Timothée 12 et 13 et bien d'autres qui nous disent. Alors je vous donne des références, si vous voulez les prendre, sur la sanctification. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Pourquoi il dit « personne ne verra le Seigneur » ? Bien parce qu'il y a un jugement. Nous, on passera tous en jugement, mes amis, tous en jugement. Alors bien sûr, les calvinistes ne peuvent pas croire qu'on peut perdre le salut, puisqu'ils sont prédestinés, voilà. Mais les arminianistes, Arminius, Wesley était arminien, ils croient qu'on peut le perdre. Voilà, bon, c'est une doctrine, mais n'empêche qu'on trouve les deux vérités. Donc qu'est-ce qu'on croit ? Moi, je pense qu'on peut le perdre. Et vous voyez, par exemple, Simon le magicien, il a donné la simonie, le septième diacre de l'église de Jérusalem, c'était Nicolas, il a donné les Nicolaïtes. Et dans Apocalypse chapitre 2, Dieu dit, j'ai en horreur les Nicolaïtes, ils me font vomir les Nicolaïtes, ils faisaient des choses horribles. C'était un diacre de l'église de Jérusalem. Et donc, il faut faire attention. Il y a bien sûr des limites qu'on ne connaît pas, on passera en jugement. Tout le monde passera en jugement. Si on est couvert par le sang de Jésus, il n'y a pas de problème. Jusqu'au bout, c'est le sang de Jésus qui nous couvre. Et si on est couvert par le sang de Jésus jusqu'à la fin, c'est pour ça que la Bible dit « regardez leur fin ». Ce n'est pas le début, c'est leur fin. Et je me rappelle, Aurel Vidal, la première fois qu'il est venu là, il a prêché là-dessus. Regardez leur fin. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui démarrent très bien et qui terminent très mal. Je ne dis pas qu'ils sont perdus. Il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. Mais je dis que c'est la fin qui compte. C'est la fin. Vous pouvez très bien démarrer. Mais si la fin est mauvaise, bien déjà, vous entraînez des gens, si vous êtes influent, dans la mauvaise direction. Et ça peut être très grave pour le jugement devant lequel nous passerons tous. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, donc par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justification, sanctification et rédemption. » C'est pour ça la sanctification, c'est la cruche qui est là, qui est très très importante, mais plus que les dons, puisque on peut très bien mal utiliser les dons. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, il dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. » Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, « Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Vous voyez, c'est une progression, puisqu'il faut l'achever, il y a un début et une fin. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, et qui sont élus, donc nous sommes élus, selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voyez-vous, la sanctification a beaucoup de vertus. Elle nous aide à devenir obéissants, parce que la sanctification nécessite de l'obéissance. Et si Dieu vous dit, voilà, la parole de Dieu dit de ne pas faire ça, et que vous le faites quand même, vous désobéissez, donc vous péchez. Bon. Si vous le faites, vous obéissez. Et donc vous progressez dans la sanctification. Alors il y en a qui vont tellement loin qu'ils se flagellent. Mais bon, ça, c'est pas bon non plus. C'est pas en se flagellant. À la limite, on va devenir orgueilleux en disant, toi, tu ne te flagelles pas, moi, je me flagelle, donc je suis mieux que toi, etc. Et l'orgueil est toujours là. C'est l'obéissance à la parole à chaque instant. Seigneur, j'ai un choix là. Qu'est-ce que je fais ? J'obéis ou je désobéis ? Vous voyez ? Et ça, c'est très difficile. Mais Jésus l'a fait. Jésus est notre modèle. Et si on s'adresse à lui, il peut nous aider dans l'obéissance à chaque instant. Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Jésus vient à notre aide. La Bible dit que Jésus nous sanctifie par la vérité de la parole. Si nous sommes sur la parole, c'est la vérité et va nous parler. Et elle va devenir vivante, parce que le Saint-Esprit va l'animer. Et c'est notre enseignant. Il va nous révéler des choses nouvelles. Dans Jean 17, 17 à 19, ce verset a pour objet notre mise à part. Mise à part, sanctification veut dire mise à part. Mise à part pour Dieu. Si nous mélangeons avec le monde, nous ne sommes plus à part. Voyez. C'est pour ça, aujourd'hui, les chrétiens, de plus en plus, se mélangent au monde. Y compris, ils font de la politique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voter. C'est un devoir de voter. Mais on peut aussi voter abstention, hein, si vous voulez. Mais faire de la politique, sauf si c'est vraiment un appel particulier, comme Cyrus, c'est particulier. Eh bien, ce qui est important, c'est d'être à part et de témoigner de la grâce de Dieu là où nous sommes, même si on est dans un secteur politique. Eh bien, ce qui est important, c'est notre témoignage. À un moment donné, on a été accueillis par Christine Boutin, qui est une catholique croyante et biblique. Hein, et c'était les jeunes, c'était les enfants, hein, c'était les jeunes sans mission, pas jeunes sans mission, c'est King's Kids, comme ça s'appelle. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, je ne sais plus le mot français, à Paris. Et quand on est rentré, bon, c'était une salle grande comme ça. Il a tiré les rideaux, tout ça, etc. Il dit, parce que voilà, il y en a qui montent aux échelles pour voir ce qui se passe, etc. Observer ce qu'elle fait et tout, voilà, etc. Il a dit, priez pour moi. Hein, priez pour moi. J'ai besoin de ça. Parce que quand je vais dans l'Assemblée nationale, il y en a combien, 600 ou, enfin, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chrétiens. Et elle s'adressait à eux en disant, bah, toi t'es chrétien, pourquoi tu dis rien? Elle dit, ah, mais toi Christine, il faut que tu restes chrétienne chez toi, dans ton fort intérieur, mais pas ici, c'est pas de politique. Donc on témoigne plus, vous voyez, même sur un plan personnel. Voyez, donc on neutralise, on se divise en deux, voilà. Sur ça, c'est difficile de faire la politique, bien sûr, parce que vous êtes. Quand elle venait dans les réunions, Michel était premier adjoint au maire, et quand elle est en première réunion, ils se moquaient tous d'elle. Voilà. Mais bon, voilà, elle faisait de l'humour, que ça lui passe au-dessus. Hein. Vous voyez, mais c'est pas facile d'être chrétien. Nulle part, c'est pas facile. Mais ce qu'il faut, c'est rester ferme. Et elle est toujours restée ferme. Toujours rester ferme dans sa foi, rester ferme dans ses convictions. Elle était restée ferme. Si on a le Saint-Esprit, Dieu nous donne la capacité de rester ferme, comme les premiers chrétiens l'ont été quand ils étaient devant les, voilà, les personnes qui les persécutaient à l'époque. Dans l'évangile de Jean, et je vais terminer là, Jésus a dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole ». Et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus, qui était fils de Dieu, il est devenu fils de l'homme. Et il a toujours voulu s'appeler fils de l'homme. Lui, il ne voulait pas entendre parler fils de Dieu, sauf quand Pierre l'a dit. Il a dit, taisez-vous, fils de l'homme. Parce que lui-même avait besoin de se sanctifier en tant qu'homme. Et c'est par l'obéissance qu'il s'est sanctifié. Ce n'est pas vertu d'autre chose. C'est par l'obéissance qu'il s'est sanctifié. Donc nous ne pouvons pas échapper à l'obéissance. Jésus nous aide, mais il nous a montré un modèle à suivre. Et là, il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, comme tu m'as envoyé, moi, je les envoie. Nous sommes envoyés dans le monde. Et Dieu sait ce qui se passe dans le monde. Hein. Que ce soit 2000 ans ou maintenant, il est toujours aussi corrompu. Il n'y a pas de changement. Je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même. Jésus nous a montré que c'est possible de se sanctifier. Eh bien, de suivre la parole, de rejeter tout ce qui n'est pas de la parole. Mais ça nécessite la prière. Comme Michel l'a rappelé ce matin. Priez, priez. Priez à toute occasion, priez quand vous êtes devant des défis, priez quand vous devez faire un choix, priez quand vous avez vos impôts à payer. Vous avez payé, j'espère que oui, parce que le délai, je crois, est passé. Il y en a qui ne payent pas leurs impôts, qui payent. Voilà, mais vous n'attendez pas à avoir la bénédiction. Hein, voilà. donnez vos dîmes, donnez, voilà. Tout ça, c'est de l'obéissance. Ça, c'est de la sanctification. Et donc, je me sanctifie afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Seigneur, tu nous as équipés pour servir. Seigneur, tu vois la difficulté que nous avons à obéir et nous te demandons ton aide. Et ton aide, c'est le Saint-Esprit qui est là. Donne-nous de recevoir davantage de toi, davantage de ton esprit, pour que nous puissions nous sanctifier comme toi tu t'es sanctifié. Que nous puissions, Seigneur, être mis à part pour annoncer l'Évangile et pour être un témoin dans ce monde, être sel et lumière dans ce monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais demander à ce que chacun ferme les yeux pour ce temps de consécration. Et ceux qui veulent simplement se consacrer au Seigneur, bien simplement vous lever à votre place. Je vais prier pour que le Saint-Esprit descende sur nous, pour que nous puissions vivre une nouvelle Pentecôte. Mais c'est réservé qu'à ceux qui le veulent. On n'est pas obligé. Le Seigneur n'oblige jamais personne. Nous sommes libres de nos décisions. Mais si nous voulons aller plus loin, eh bien, je vous invite à vous lever en ce moment. C'est un moment sacré, un moment que le Seigneur voit votre décision. Ce n'est pas moi. Je suis simplement un interlocuteur qui délivre la parole, mais vous êtes devant Dieu. Et le Seigneur veut vous bénir, le Seigneur veut vous remplir, le Seigneur veut vous utiliser, il veut nous utiliser en tant qu'Église. C'est l'Église du Seigneur et nous avons besoin de cet équipement aussi bien de la sanctification que des dons spirituels. Et j'aimerais que cette Église puisse exprimer tous les dons. Tous les dons, que ce soit dons de miracles, dons de guérison, dons de prophétie, dons d'interprétation, tous ces dons qui sont à notre disposition. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui se sont levés ce matin, Seigneur. Tu vois leur cœur, tu vois leur désir, tu vois leur envie, Seigneur, d'aller plus loin avec toi. Bien, bénis-les, Seigneur. Bénis-les. Étends ta main, Seigneur, sur chacun d'entre eux. Et ceux qui ne se sont pas levés, Seigneur, qui se lèvent par la suite pour toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce que nous voulons, c'est voir ta gloire. Seigneur, tu nous as appelés pour être à ta gloire, non pas à la nôtre. Et Seigneur, en recevant tous les dons que tu veux nous donner, Seigneur, y compris la sanctification, eh bien, Seigneur, nous pouvons t'apporter la gloire. Et quand les gens se tournent vers nous, et on peut dire, eh bien, la gloire, oui, au Seigneur. S'il se passe quelque chose, bien nous savons dans notre cœur que nous comptons sur Dieu, que nous ne comptons pas sur nos forces, bien que nous nous mettions à l'œuvre, bien que nous travaillions pour lui, mais nous pouvons dire c'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait au travers de moi. Et là, c'est un témoignage, comme les apôtres, quand je pense à Pierre et Jean qui étaient là à la porte du temple où il y avait cet homme qui demandait de l'argent, ils ont dit oh, j'ai pas d'argent. Ni or, ni argent, mais ce que je t'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Et que chacun de nous puissions dire à un moment donné, lève-toi et marche, à quelqu'un qui nous réclame des choses. Et que nous puissions être des instruments de puissance entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te prie de les bénir, de bénir ces bien-aimés. Je vous invite juste à ouvrir les mains comme ça pour recevoir le Saint-Esprit. C'est un symbole, bien sûr, mais on ne sait jamais, le Saint-Esprit peut descendre. Eh bien, Seigneur, descends, descends sur chacun de tes enfants ce matin. Qu'ils puissent recevoir de toi toutes les bénédictions du ciel. Et Seigneur, que cette Église puisse revivre une nouvelle Pentecôte, une nouvelle action de puissance, d'évangélisation. Seigneur, n'as-tu pas dit que ce serait un phare? Eh bien, le phare, il éclaire. Le phare, il rayonne. Le phare, il allume ses projecteurs. Le phare, il ouvre les yeux de ceux qui sont dans les ténèbres. Eh bien, Seigneur, que ce soit le cas de cette Église et de tous ceux qui vont se joindre à nous, Seigneur, parce que tu appelles chaque dimanche, dimanche après dimanche, des personnes qui vont, Seigneur, se joindre à cette communauté pour être des témoins de ta grâce. Seigneur, c'est ta grâce que nous voulons voir se couler dans les rues, Seigneur, de cette ville. C'est ta grâce que nous voulons voir, Seigneur, amener des personnes jeunes, moins jeunes, plus âgées, Seigneur, jusqu'à la vieillesse, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, et que ce lieu soit rempli de ta présence. Nous te prions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons te remercier parce que c'est ta volonté, c'est pour cela que tu as appelé ton Église à l'existence. Et cette Église particulièrement, Seigneur, l'ennemi ne pourra pas l'éradiquer. Seigneur, tu as dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et Seigneur, nous te bénissons pour cela, au nom de Jésus. Amen.